Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, bonne année à vous Catherine.
Mais oui, bonne année Olivier, bonne année à tous ceux qui nous écoutent, le meilleur évidemment, voilà ce que nous vous souhaitons. Et bonne année Stéphane Fuchs et bienvenue ce matin avec nous.
Merci, bonne année à vous.
Oui, c'est le premier Mediapolis de l'année 2021, préenregistré pour ne rien vous cacher, avec un double regard sur l'année 2020, sur l'année 2021. Notre invité Stéphane Fuchs, vice-président du groupe Havas, est un grand, éminent spécialiste de la communication, donc le client rêvé pour Mediapolis, l'émission réalisée par Jean-Luc Arblad, préparée par Capucine Patouillet, et qui, comme d'hab, commence avec Canteloup.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé hier un couvre-feu en plus du confinement, mais Matignon a démenti dans la foulée. On est avec le Premier ministre Jean Castex. Bonjour.
Bonjour, Madame Julie. Et excusez-moi, parce que je suis un peu encore dans les dossiers sur les petits commerces. Les librairies doivent fermer leurs librairies, ça c'est cohérent. Les fleuristes doivent fermer leur floristerie, c'est cohérent. Gabriel Attal doit fermer sa gueule, c'est cohérent, parce que sinon, il annonce n'importe quoi.
Mais c'est pas à l'étude, si ?
Et cette fermeture. Ce confinement couvre-feu. Mais ça devait être une surprise. Et là, je dois dire que Gabriel Attal a tout gâché.
Donc, vous y pensez bel et bien au couvre-feu, alors ?
Madame Julie, pendant cette période du confinement où les Français ne doivent pas sortir, c'est vrai que je réfléchis à un couvre-feu pour qu'ils sortent encore moins que pas du tout. Cette mesure, bien sûr, sera débattue, évidemment.
Mais par qui ?
En bonne et due forme.
Par qui ?
Par Emmanuel Macron, tout seul, comme d'habitude.
C'était donc Nicolas Canteloup imitant Jean Castex au moment de la polémique sur couvre-feu, reconfinement, dans la matinale d'Europe 1, mercredi 4 novembre. Stéphane Fuchs, vous publiez « Pandémie médiatique » chez Plon, sous-titre « Com de crise, crise de com ». C'est pour faire un jeu à la Sciences Po ou c'est parce qu'il y a les deux ?
Parce qu'il y a les deux.
Parce qu'il y a les deux. Et vous êtes impitoyable sur la communication du gouvernement toute l'année écoulée. Vous pointez un triple fiasco, un triangle, dites-vous, du fiasco français, carrément, vous y allez, fiasco français, infantilisation, technocratisme, incohérence. Alors, juste avant d'en venir à ces trois aspects, déjà, le simple terme de fiasco français. Est-ce que ça n'est pas exagéré, puisque quand on compare les choses, on va dire qu'on n'est pas dans les meilleurs, ça c'est sûr, mais on n'est pas dans les pires.
C'est pas un fiasco sanitaire. D'ailleurs, c'est un des éléments qui me fait écrire le livre. Le résultat de la politique sanitaire française n'est absolument pas un fiasco, on est même plutôt dans la bonne moyenne. La réalité, c'est que la différence entre le jugement de l'opinion et la qualité de la politique suivie montre que c'est un fiasco de com. Je dirais presque, c'est un paradoxe. Normalement, avec des résultats comme ceux que le gouvernement a eus, avec une politique qui a été plutôt honnêtement conduite, avec un hôpital qui a tenu, avec une capacité d'adaptation de l'administration, avec des mesures de soutien économique qui ont fonctionné, le jugement de l'opinion sur cette crise devrait être bien meilleur que celui qu'il y a. Et si le jugement est aussi critique, plus critique en France qu'il ne l'est au UK, plus critique en France qu'il n'est en Suède, qui sont des pays qui, pourtant, ont conduit des politiques bien moins efficaces que celles qu'on a. C'est parce qu'on a vu, cette fois-ci, que la manière dont la communication était conduite en France par les élites, et notamment par les politiques, ne fonctionnait plus.
Objection, votre honneur. Les Français, avant même le Covid, les Français en soi, les Français depuis les Gaulois, sont toujours plus critiques, plus distants, plus dans le rejet de leurs dirigeants.
Alors, objection retenue, cette crise, elle vient de loin. En 2003, nous avions publié avec Bernard Sananès une étude qui s'appelait « La société de défiance généralisée ». Et puis nous avons poursuivi, j'avais publié un premier livre, c'était en 2013, j'en fais pas trop, il y a 7 ans, sur les nouvelles élites, pour montrer comment est-ce que justement on avait un problème de rapport des élites en France à l'opinion. Mais, pardon, cette distance, elle vient de loin, elle est plus forte, mais elle a aussi des raisons qu'on a vues exploser pendant la crise du Covid.
Oui, parce que aussi, peut-être que le péché mortel, ça a été d'abord les ratages sur le masque.
Les mensonges et pas juste les ratages. Il faut, mettons les mots sur les choses. C'est à la fois le mensonge et le fait de ne pas reconnaître qu'on a menti. C'est la volonté, l'incapacité à dire « je me suis trompé ». Le mensonge, c'est quoi ? Il a une double cause. La première, tout le monde l'a compris, c'est parce qu'on veut cacher la pénurie et qu'on a peur de faire peur. Et dans le logiciel des gens qui nous gouvernent, il y a peur de faire peur. Ils ne mentent pas par méchanceté, hein. Ils mentent parce qu'ils pensent en responsabilité que de dire aux Français « il y a une pénurie sur les masques », ça peut provoquer de la panique et c'est dangereux. Et donc, en responsabilité, ils se disent qu'avec une opinion qui n'est pas intelligente, il vaut mieux cacher la vérité que de la dire.
Est-ce que cette image
le problème, c'est que l'opinion est intelligente, quelquefois. Elle a compris que quelque chose n'allait pas.
Le problème, c'est que l'opinion, elle est plus intelligente encore aujourd'hui qu'hier, parce que dans la réalité, le monde médiatique dans lequel nous sommes fait que tout le monde partage la même information, qu'elle soit vraie ou fausse. On pourrait dire pour le meilleur et pour le pire, la diffusion de l'information d'une manière instantanée et pour tout le monde fait que l'information n'est plus le privilège de quelques-uns qui, en lisant Le Monde, en écoutant Europe 1, avaient, il y a 30 ans encore, une sorte de privilège de l'accès à l'information. Ça
n'existe plus.
Mais est-ce
qu'il n'y a pas quand même une sorte d'exagération rétrospective ? Parce qu'au moment... Bien sûr, hein, je ne vais pas du tout prendre la défense du pouvoir et nier que sur le masque, on soit planté. Mais au moment où il me pense... indépendamment de la pénurie que le masque est inutile, il y a quand même toute une partie des scientifiques qui disent la même chose.
Alors c'est le deuxième sujet, c'est l'infantilisation. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'on est tellement idiots, parce qu'on ne sait pas porter le masque, que le masque devient dangereux. Il fallait les écouter, les scientifiques. Ils disaient quoi ? Avec le masque, il y a deux dangers. Le premier, c'est que vous allez vous croire invincible face au virus, et donc vous allez avoir des comportements dangereux, parce que vous allez penser que le masque vous protège. Et le deuxième, c'est qu'en fait, vous ne savez pas porter le masque et donc vous allez faire n'importe quoi avec. Plutôt que de nous expliquer, et c'est là où est tout l'enjeu et tout le problème, plutôt que de nous expliquer que le masque, il faut qu'il couvre le nez et la bouche, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec, que quand on l'a utilisé un certain temps, ensuite il faut le mettre à la poubelle, plutôt que, au fond, de nous responsabiliser dans la pratique du masque, ils préfèrent, parce qu'on ne serait pas responsable, nous dire ne portez pas le masque serait dangereux. Quand Veolia veut faire, au moment du premier déconfinement, une campagne de dépistage systématique sur le virus. On a un membre du comité scientifique qui les appelle pour leur dire « Ne faites pas ça. Les gens, s'ils sont testés, pourraient se croire invincibles contre le virus. »
Ah oui, mais alors ça, c'est pas que le pouvoir politique, c'est aussi les scientifiques. On y revient !
Europe 1. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et notre invité Stéphane Fuchs, vice-président du groupe Havas depuis 2011, auteur de Pandémie médiatique chez Plon, un réquisitoire sur la communication du gouvernement durant cette longue crise sanitaire, économique, sociale, psychique de l'année 2020. Alors, infantilisation, avez-vous expliqué ? Je vous objectais que ça n'était pas que les politiques.
Non, bien sûr. Et une partie des scientifiques sont également coupables de penser que, parce qu'on ne comprend pas, on peut faire l'économie nous expliquer. Moi, je suis d'une culture, on va dire, politique rocardienne. Le parler vrai, le fait, au fond, de ne pas prendre les gens pour des imbéciles et de m'adresser plutôt à l'intelligence des gens. Et je constate surtout que, d'un point de vue pratique, ça ne marche plus. C'est-à-dire que ce système qui est fait d'injonctions contradictoires et qui fait qu'on vous dit « le masque est inutile, donc il devient obligatoire ». Les plages, vous n'avez pas le droit de vous y promener, donc vous pouvez prendre le métro. Vous pouvez aller dans les stations de sport d'hiver, mais vous ne pouvez pas prendre les remontées mécaniques. Tous ces éléments qui, en réalité, sont absurdes parce qu'ils ne sont pas expliqués, sont insupportables et sapent la confiance des Français dans ceux qui les dirigent.
Dans le fond, vous dites qu'il y a eu le mensonge du départ, mais on continue à être dans l'absurdité, quoi. Ça, même tout au long ces derniers jours, avec l'ouverture ou non des salles de sport, des salles de spectacle. Vous dites les Français n'adhèrent pas à ce qu'on leur dit.
Je pense que la crise est un accélérateur de choses qui existaient avant, hein, ce que vous racontiez tout à l'heure, et que simplement elle les a amplifiées au point de les rendre pour partie insupportables. Ça a amplifié ce sentiment que, au fond, ceux qui nous gouvernent nous prennent pour des imbéciles et ne nous disent pas la vérité. Et on ne reconnaît pas qu'on s'est trompé. Et quand on a la jauge de 30 personnes qui, en fait, devait être 30%, pour les lieux de culte, au lieu de reconnaître qu'on s'est trompé et de le corriger.
Vous savez que c'est Mgr Chauvet qui vous a précédé la semaine dernière, et on a longuement parlé de ça.
On préfère être condamné par le Conseil d'État, parce que 30 personnes dans la petite chapelle en Corse, à côté de chez moi, à Aulette, qui fait 10 mètres carrés, c'est évidemment beaucoup de monde, mais 30 personnes dans la cathédrale de Reims, c'est ridicule.
Alors comment vous expliquez ça, une telle sottise, quoi.
Il y a en France une particularité qui est qu'au fond, les élites se méfient du peuple. Au fond, la défiance est une défiance du peuple vis-à-vis des élites, mais n'oublions pas que c'est aussi une défiance des élites vis-à-vis du peuple. Et que cette défiance, elle est pour partie liée à nos systèmes méritocratiques. Nous sommes des élites sachantes. Nous avons fait les écoles, nous savons, nous avons appris.
Oui, enfin là, on ne pouvait pas penser que les fidèles allaient même mettre le feu aux églises.
Non, mais plutôt que de reconnaître... Alors après, il y a un deuxième sujet, c'est qu'on a un mal fou, encore aujourd'hui, à reconnaître qu'on s'est trompé quand on s'est trompé. Édouard Philippe.
Mais j'allais vous parler de lui, justement. Parce que lui, il est populaire parce qu'il a dit quelquefois « je doute, je ne sais pas », il ne voulait pas répondre.
Écoutez, sur Édouard Philippe, écoutez Marine Le Pen.
Je pense qu'il est apparu avec des qualités inverses de celles du président de la République, c'est-à-dire avec une forme de modestie, de clarté, qui ne sont pas les qualités premières d'Emmanuel Macron. Je pense que les Français apprécient assez peu que le Premier ministre soit considéré comme un fusible et que le Président de la République manifestement cherche à se décharger de ses responsabilités alors qu'il a été le maître d'œuvre des décisions prises pendant cette crise.
Alors c'était le jeudi 14 mai sur RMC, Marine Le Pen faisant l'éloge des vertus d'Édouard Philippe.
Pour mieux taper le président, vous voyez.
Je ne vais pas vous accuser de plagiat parce que je pense que c'est plus une coïncidence qu'autre chose. Vous savez que dans votre livre, vous utilisez les mêmes mots sur Édouard Philippe pour dire pourquoi lui avait réussi, modestie et clarté, puis vous ajoutez rigueur et engagement.
Oui, parce que modestie et clarté, ça ne suffit pas, mais c'est des éléments. Au fond, ce qui est incroyable avec Édouard Philippe, c'est qu'on ait trouvé incroyable qu'il dise qu'il ne savait pas quand il ne savait pas. Ce qui prouve bien qu'on a une sorte de décalage avec l'ensemble de la classe politique. Au fond, que quand un responsable politique qui ne sait pas nous dit « je ne sais pas », on trouve ça formidable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. D'ailleurs, dans les critiques que les politiques ont portées, parce qu'au fond, il est normal de dire « je ne sais pas » quand je ne sais pas, et que personne n'a la science infuse et absolue. Et quand d'ailleurs le professeur en charge de conseiller le gouvernement sur la politique vaccinale, Alain Fischer, dit avec lui beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'honnêteté, qu'on ne sait pas tout et qu'il faut reconnaître ce qu'on ne sait pas et ce qu'on va apprendre, alors on entend des politiques l'accuser d'être un professeur folamour ou un professeur tournesol parce qu'il va inquiéter la population, alors qu'en réalité, pour rassurer les Français, il vaut mieux leur dire la vérité que de leur raconter des balivernes.
Oui, mais là, Emmanuel Macron, devant les journalistes de Brut, a dit que jamais il n'imposerait une vaccination obligatoire, et il dit d'ailleurs parce qu'on ne connaît pas les effets secondaires, la toxicité, donc c'était loin d'être un encouragement. Là, il disait la vérité peut-être.
Mais je pense que Emmanuel Macron a fait évoluer d'une manière positive sa communication pendant cette crise et qu'on est passé d'un mode vertical, c'est la guerre, puis je parle avec un pupitre, avec en arrière-plan l'hôpital militaire de Mulhouse, comme si on était en pleine guerre du Golfe.
Vous avez trouvé ça ridicule dans votre livre. Vous trouvez que c'était pas le bon.
Je trouve que c'était absolument déplacé et que ça construisait une forme de volonté ou de soupçon de volonté d'utilisation politique de la crise en se donnant des allures martiales, alors qu'en réalité, ce qu'on attendait, c'était quelqu'un qui nous fasse la pédagogie, qui nous explique et dans lequel on puisse se reconnaître.
Édouard Philippe, Emmanuel Macron et Castex, alors Castex, vous nous dites, juste après une pause.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Stéphane Fuchs, vice-président d'Havas, auteur de Pandémie médiatique chez Plon. Catherine Ney, juste avant qu'on en vienne à Castex, qu'est-ce que c'est que votre histoire de tuteur, là, avec Édouard Philippe ?
Non, mais je revenais sur l'image que donnait de lui Édouard Philippe. Pourquoi il a plu ? Parce que quand il faisait sa communication entouré du ministre Véran et tout ça, il était droit dans ses bottes, mais si vous voulez, en acquiesçant au fait qu'il n'avait peut-être pas tort et tout ça. Donc, on pouvait se raccrocher à lui parce qu'on disait, il dit la vérité, il est sincère. Il avait l'air, dans ce moment-là, il était le seul tuteur. C'était un tuteur pour les Français.
Et Macron ?
Emmanuel Macron, il intervenait souvent, mais pas directement parce qu'il laissait faire le Premier ministre, mais il voulait parler quand même. Et alors, on le voyait tantôt trop bronzé, assez cool, le 1er mai, par exemple, pour dire, je ne sais plus quoi, sur les syndicats qui se chamaillaient. Ça venait là comme une... Mais il était décalé par rapport à son Premier ministre.
Vous êtes d'accord avec Catherine Ney, Stéphane Fuchs ?
Oui, il y a un petit enjeu dans la communication du président qui est un enjeu, au fond, de continuité dans l'image qu'il donne de lui-même. C'est que vous ne pouvez pas être le lundi en mode militaire vertical à Mulhouse et puis le mercredi en mode Boris Vian faisant une conférence Zoom avec le monde de la culture.
Et vous pouvez tous les rôles en même temps. En plus, c'est un sosie de Boris Vian.
On peut pas être Clémenceau et Boris Vian. Mmh. Et donc, il y a un problème, c'est qu'à un moment donné, les Français ont besoin d'une lecture, surtout dans des périodes de crise, d'une lecture qui est plus consistante. Il y a un enjeu.
Je croyais que les Français étaient très intelligents et qu'ils pouvaient comprendre, donc à un moment... On soit chef de guerre et à un moment on soit...
Ils comprennent que c'est compliqué justement d'être plusieurs personnages à la fois et donc ils ont envie de savoir comment est-ce que au fond on doit lire le personnage.
Donc il faut que avec ce soit simple.
Avec Édouard Philippe, il y a de ce point de vue plus de simplicité, peut-être aussi parce que chez Édouard Philippe, il y a une forme d'évidence de la sincérité. Le paradoxe étant d'ailleurs que Édouard Philippe s'est presque plus trompé que Macron sur la crise elle-même. Soyons honnêtes une seconde, hein.
Même pendant toute l'émission, si vous voulez.
Mais là, particulièrement, parce que, au fond, celui qui avait l'intuition qu'il fallait repousser le premier tour des élections municipales, c'était Emmanuel Macron, pas Édouard Philippe. Et celui qui a failli repousser le déconfinement, parce qu'on avait un problème de Conseil constitutionnel qui n'avait pas validé le décret, donc, etc., c'était Édouard Philippe également. Alors que vous imaginez la scène cocasse de devoir aller à la télé le dimanche soir pour dire « Demain, on ne va pas pouvoir déconfiner, on n'a pas eu le temps de signer les papiers. » Ça aurait été un grand succès. Et donc, il y a d'évidence un enjeu qui est que quand vous faites de la com quelque chose de secondaire, quand vous n'acceptez pas que la communication, ça correspond aussi à des règles, qu'elle vous oblige à des obligations et que quelque part, elle est une contrainte, donc elle entrave votre liberté d'être tous ces personnages en même temps et tout ce que vous voulez être à la fois, alors vous vous plantez.
Et Castex ?
Castex, c'est plus compliqué parce que, au fond, d'abord, il est l'homme du déconfinement et du retour des jours heureux. En tout cas, c'est comme ça qu'il est annoncé. Et d'ailleurs, c'était sa première mission pour finalement se retrouver à être l'homme du reconfinement, l'homme du couvre-feu, l'homme du fait qu'on ne passera pas le réveillon comme on aurait aimé le passer. Et donc, il y a une forme déjà de contradiction, on pourrait dire, entre l'intention et la réalisation. Donc, il y a deux choses différentes. Deux, il est en même temps un homme du terroir, un homme avec accent, un homme qui connaît la France rurale.
C'est un atout, selon vous, ça ?
C'est un atout, mais il est aussi un préfet, représentant de l'État profond, et donc acceptant ou assumant une forme de ses délires bureaucratiques.
Donc, il est bilingue.
Qui est la deuxième crise que la France ait connue. C'est-à-dire
pourquoi
que quand
vous faites une équation entre préfet et délire technocratique ? Les préfets ne sont pas déliants. Il y a aussi, je ne vais pas remonter à Jean Moulin, mais il y a des préfets qui remplissent des fonctions absolument essentielles.
Dès qu'on dit tous, évidemment, on est dans l'excès et dans l'abus. La réalité, elle est quand même que la France administrative a été d'une créativité folle dans cette crise pour créer de la norme, de la bureaucratie et pour, à un moment donné, se rendre insupportable au regard des gens. Y compris parce qu'on n'explique pas. On n'explique pas pourquoi 30 personnes plutôt que 30% dans les églises. On n'explique pas pourquoi on pourrait aller dans les stations de sport d'hiver et qu'un tire-fesse où on est tout seul, ça serait plus dangereux que le métro où on est tous ensemble. Et donc, quand on n'explique pas, il ne faut pas être surpris que les gens ne comprennent pas. Et donc, pardon, cette France de la norme, cette France de la bureaucratie, elle a aussi montré ses limites dans cette crise par rapport à un enjeu qui est la décentralisation, la proximité, le fait de co-construire, la coalition, le compromis, qui sont des mots qui, en France, apparaissent comme presque des gros mots au regard de certains qui pensent que le pouvoir est une verticalité des reins avec laquelle on ne doit pas négocier, alors que la réalité, c'est que les Français attendent du politique qu'il fasse des choses que l'on peut comprendre. Voilà. Les Français, d'ailleurs, ont été très sages. Pardon, Olivier Catherine, mais regardez, les Français n'ont pas envahi le Bundestag, ils ont porté le masque, ils ont accepté même ce qu'ils jugeaient absurde sur les fermetures des rayons dans les hypermarchés, le couvre-feu à 20h alors qu'avant il était à 21h. Les Français ont été très obéissants parce qu'ils sentent qu'au-delà des enjeux de la crise sanitaire, il y a un risque de devoir se déliter ce qui fait le socle de notre vivre ensemble en France.
Est-ce qu'ils n'ont pas bougé, mais enfin ils ont porté plainte pour mauvaise gestion et des plaintes ont été retenues, ce qui fait que M. Molins a saisi la Cour de justice de la République, puisque c'était des ministres, et qu'il s'est passé une chose qu'on n'imaginait pas, c'est que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, le ministre en exercice Olivier Véran, mais Mme Buzyn et tout ça, ont été à 6 heures du matin, étaient réveillés comme des malfaiteurs, il y a eu des perquisitions, y compris chez Sibendiaï. Est-ce que vous trouvez ça normal ?
Moi, je m'inquiète de l'extrême judiciarisation, on va dire, de notre société, dans laquelle on finit par faire tout pour dégoûter les candidats à devenir ministre de le devenir. Et franchement, je ne souhaite pas aujourd'hui à mes amis de devenir ministre. C'est quand même terrible de penser ça.
À cause de la justice ?
À cause pas juste de la justice, c'est-à-dire que c'est un métier dans lequel il n'y a plus que des coups à prendre plutôt que des choses intéressantes à faire.
Eh bien, nous sommes le 2 janvier dans cette émission au demeurant préenregistré. Vœu de Stéphane Foulkes à ses amis, ne pas devenir ministre. Je le rassure tout de suite, la plupart de ses amis n'avaient aucune chance de devenir ministre, donc le vœu sera exaucé. Et maintenant qu'on a bien tapé sur le pouvoir, les élites, sur l'année 2020, on va aller regarder, se projeter sur 2021, dans 2 minutes.
Europe 1, Mediapolis, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Avec Stéphane Foulkes, le grand communicant, auteur de Pandémie médiatique aux éditions Plon. Alors je voudrais maintenant qu'on passe un peu à 2021, puisque 2021 commence, et donc à ce qu'on a appelé le monde d'après. Écoutez ce qu'en disait au printemps dernier, même juste avant le printemps dernier, le 16 mars, dans son allocution du 16 mars, le président de la République.
Nous gagnerons, mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.
Le président de la République, le 16 mars dernier, j'ai l'impression, je schématise à peine, que pendant quelques semaines, peut-être quelques petits mois, il y a eu l'idée que, en effet, le monde d'après serait très différent. Et serait très différent en mieux, qu'on aurait appris, qu'on aurait inventé des choses, qu'on respecterait et rémunérerait correctement les premiers de corvée, les deuxièmes lignes, qu'on aurait une conception différente du travail, des lieux de vie. Et puis, que l'année passant, l'année avançant, on se disait, mais le monde d'après sera exactement, ni plus ni moins, le monde d'avant avec ses injustices et ses limites. Stéphane Foulkes, qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans ?
Je pense que le monde d'après sera forcément différent parce que cette crise, comme toute crise profonde, accélère des mutations qui étaient déjà en œuvre dans la société française.
Par exemple ?
La mutation du travail, vous l'avez dit, c'est-à-dire que le télétravail était à 5%, il sera demain entre 15 et 20%. Il aura changé le rapport au bureau.
Dès 2021 ?
Dès 2021, d'abord parce que la crise sanitaire, malheureusement, va continuer pendant toute une partie et qu'on ne va pas revenir dans le monde d'avant tout de suite. Puis parce que, de toute façon, il y a des choses qui ont changé et qu'on peut offrir des possibilités nouvelles aux salariés de travailler différemment pour partie de chez eux ou pour partie au bureau, parce que la situation de chaque personne est un peu différente. Télétravailler quand on est 5 dans un petit appartement, c'est pas la même chose, etc.
Et à évidemment. Part le télétravail ?
Je pense que la société est allée encore plus loin dans sa numérisation. C'est-à-dire, on voit ce que ça veut dire quand même. On a aussi pu vivre ces épreuves parce qu'il y avait Zoom, Teams et tous les outils qui permettaient de continuer à faire fonctionner la société, de partager l'information.
Les étudiants, ils demandent vraiment que c'est le monde d'avant qui revienne, hein, parce que ça leur manque d'avoir les cours d'avoir les échanges entre eux.
Heureusement, je dis simplement que ces outils nous ont fait plonger, et pour toujours, dans un monde dans lequel la part du numérique dans nos vies ne sera pas la même que celle qu'elle était avant. Moi, je suis retourné au bureau depuis longtemps parce que, quelque part, j'ai besoin de ce contact avec les gens, peut-être parce que je suis le monde d'avant, mais aussi parce qu'il y a des belles choses dans le monde d'avant. Je pense que là où ça change également, c'est que quand même, cette crise a provoqué à la fois un repli sur soi, au niveau de la cellule familiale, mais au niveau, au fond, des groupes avec lesquels on se sent proche. Elle a provoqué également un repli sur soi des nations. On voit que le commerce international est aujourd'hui très impacté, qu'il y a des tensions partout, que même si le départ de Trump est une bénédiction, on n'est pas revenu à un monde dans lequel tout serait simple et facile. On voit aussi que la préoccupation de l'environnement, de la responsabilité sociale transforme en profondeur les entreprises et nos sociétés. Et donc, oui, je le crois sincèrement, le monde d'après ne sera pas le monde d'avant.
Oui, mais c'est à la fois optimiste, si on veut, et très angoissant aussi pour tous ceux qui se disent « mais malheureusement, on quitte un monde, finalement, hein, ce qu'on était heureux quand on était malheureux. » C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va gagner, mais on sait ce qu'on va perdre, voyez. Et donc, c'est une communication, moi, je dirais, qui est... ça ne rassure pas, quoi, non plus.
Non, mais...
Parce qu'il y a peut-être une promesse, mais on comprend autre chose, quoi. Il y a une double lecture.
Non, mais il y a même une angoisse profonde dans nos sociétés, parce qu'aujourd'hui... On est confronté à une crise sanitaire qui dure. On est confronté à une crise économique qui ne fait que commencer.
Voilà, ouais.
À des transformations qu'on ne maîtrise pas toujours et qu'on ne pilote pas. À un monde qui se dérègle et qui fait peur. À des crises terroristes et sécuritaires qui sont profondes et réelles. Et donc, il y a une sorte de sentiment de peur, parfois même d'angoisse, qui a saisi l'opinion face à ce monde qui se déconstruit pour partie, ou en tout cas qui se transforme dans la douleur. Et donc, évidemment... Ça va peser sur le climat de 2021, ça pèsera sur les élections de 2022, ça crée en tout cas un moment dans la société qui n'est pas le même que celui qu'on avait il y a un an d'aujourd'hui.
Et pourtant, normalement, à vous entendre, dans la litanie des peurs que vous venez de rappeler, ça devrait être le triomphe des populistes. Or, dans 4 jours, Trump, c'est fini. C'est peut-être pas fini pour toujours, mais c'est fini à la Maison-Blanche. Et Joe Biden doit être, c'est définitivement consacré par le Congrès, et c'est le 21 janvier, pour être précis, qu'il rentrera à la Maison-Blanche. Alors pourquoi est-ce qu'avec tous les ingrédients que vous venez d'évoquer, et qui pour moi sont le terreau du populisme, pourquoi cette incroyable pandémie mondiale n'a pas provoqué, loin de là, un succès des populistes? Vous nous répondez juste après la pause.
Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Stéphane Fuchs, auteur de Pandémie médiatique chez Plomb, Stéphane Fuchs, vice-président d'Avas, Stéphane Fuchs, communicant, qui donc porte un regard, j'allais dire, décalé et libre sur les politiques par rapport à ceux qui sont engagés dans la politique. Vous nous avez fait un tableau sur... la multiplicité des crises et des peurs qui frappent les citoyens de quasiment tous les pays du monde. Et donc, je voulais vous poser la question, mais alors pourquoi est-ce que ce ne sont pas les populistes qui en profitent?
Alors d'abord, parce que les populistes au pouvoir ont échoué. Ils sont mauvais. Enfin, regardons ce qui s'est passé aux États-Unis. La gestion de la pandémie par Trump a été une catastrophe absolue, dans laquelle il aura provoqué et... la crise sanitaire et la crise économique, parce qu'au fond, quand on ne traite pas, quand on ne règle pas la question de la crise sanitaire, en fait, on ne règle pas non plus la question de la crise économique. Boris Johnson a changé un certain nombre de fois de position au point de dérouter tout le monde. En Italie, on a bien vu Bolsonaro au Brésil. Ouais. Et donc, les populistes ont échoué parce que leur gestion de la crise est une gestion hiératique, car ils courent après l'opinion, et non pas après, je dirais, d'un certain point de vue, un cap qu'ils suivent. Or, quand on a besoin de repères, quand on a besoin d'être rassuré, celui qui court après l'opinion n'est pas celui qui rassure. Maintenant, le populisme n'a pas forcément échoué.
Écoutez, alors, sur le populisme n'a pas forcément échoué, écoutez Éric Decouty, journaliste d'investigation, ex-directeur délégué de Marianne, ex-directeur adjoint de Libération, et auteur de « Ils veulent tuer la démocratie », c'était le jeudi 26 novembre.
Quand on regarde le populisme et cette crise sanitaire, quand on regarde les pays où le populisme est à l'œuvre, eh bien c'est un échec à chaque fois. Donc on pourrait considérer que la crise a un effet révélateur en quelque sorte de l'inanité des solutions populistes. Et en un second temps, on voit bien que le populisme, non pas les populistes, mais le populisme se nourrit de cette crise, parce que ça sert à quoi? C'est le rejet des élites, on voit bien fleurir les thèses complotistes. Mmh. Donc le populisme se nourrit de cette crise, avec toutes les limites de la démocratie, en tous les cas les échecs.
Donc ne nous réjouissons pas trop vite, Stéphane Fuchs.
Non, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai fait ce livre, c'est parce que j'ai peur que parce que les politiques ne maîtrisent pas le logiciel de communication qu'il faudrait pour, au fond, défendre la démocratie, qui est la meilleure des solutions, qu'au fond, dans les sondages, quand on a 35% des Français qui disent que cette crise aurait été mieux gérée par un régime autoritaire que par un régime démocratique, on atteint la cote d'alarme. Et en réalité, il est important que les démocraties retrouvent la confiance de l'opinion. la bataille sur le vaccin est peut-être d'ailleurs un moment clé. La volonté avec laquelle le gouvernement est rentré et les scientifiques d'être plus transparents, d'arrêter d'avoir peur de faire peur, de vouloir expliquer les choses, y compris parce que, comme le vaccin ne marche pas à 100%, on a des personnes qui sont vaccinées et qui mourront du Covid. Et donc, si on ne l'a pas expliqué au préalable, ben on pensera que c'est le vaccin qui les a tués et que donc on a là une bataille clé contre les complotistes et donc contre les populistes, parce que par ailleurs, le populisme se nourrit de quelque chose qui a grandi pendant la crise, le refus du système, la défiance vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent.
Oui, et puis Trump est battu avec 71 millions d'Américains qui ont voté pour lui.
Oui, et
81 millions qui ont voté pour Biden.
Oui, 7 millions de plus, c'est-à-dire que jamais un président sortant des États-Unis n'avait été battu par un tel écart. Et donc, oui, il fait plus de voix que ne l'avait fait Obama quand il a été élu, mais c'est parce que la participation est beaucoup plus importante. Mais il perd avec 7 millions de voix. C'est-à-dire que, ne nous y trompons pas, le suffrage universel a largement battu Donald Trump.
D'ailleurs, vous faites une leçon, juste un mot là-dessus, soit Catherine, soit vous, d'ailleurs, Stéphane Fuchs. On peut dire, c'est assez inquiétant de voir qu'un président de la République ait pu à ce point-là contester la régularité d'une élection et être soutenu pendant si longtemps par une majorité de son parti et de ses électeurs. Ou alors on peut dire, c'est très rassurant de voir que les institutions américaines, les juges, y compris des juges nommés par Trump, ont refusé de lui donner raison. La Cour suprême, y compris une Cour suprême dominée par des Trumpistes, a refusé de lui donner raison. Vous voyez l'un ou l'autre, ou les deux, Catherine ?
Ben, je vois, c'est la fin, c'est à la fin qu'on peut tirer les leçons. Et moi, je trouve que la Cour constitutionnelle suprême des États-Unis, ben là, elle vous fait croire que les États-Unis, c'est toujours une grande démocratie. Quoi. C'est ça, c'est rassurant aussi.
Vous êtes d'accord, Stéphane Fuchs ?
Complètement, les institutions américaines ont été fortes et tous ceux qui prédisaient le pire, c'est-à-dire une forme de guerre civile aux États-Unis, en sont pour leur prédiction. Le pire n'est pas toujours certain.
Donc vous avez
et on n'achète pas, quel que soit le pouvoir, on n'achète pas un membre de la Cour suprême des États-Unis. C'est ça qui est intéressant.
Je suis fondamentalement d'accord avec vous, mais je garde ce bémol en tête que 2/3 des électeurs républicains aient continué jusqu'au bout à penser comme Trump que l'élection a été frauduleuse, c'est quand même un problème.
Et Poutine a attendu jusqu'au dernier moment pour reconnaître la victoire de Biden.
Alors écoutez, là nous sommes donc au tout début de cette année, on a traité de sujets graves, on va maintenant venir à un sujet certes tout à fait important, mais on va le traiter sur un mode un peu plus joyeux, un peu plus léger, de la prévision impossible, du commentaire humoristique, que sais-je encore. Allez, juste après une pause, un sujet sur 2022, vous allez voir, c'est rigolo.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Stéphane Fuchs. Stéphane Fuchs, vous savez ce que c'est que la présidentialite ? La présidentialite, c'est une maladie très répandue en France, qui fait qu'on a envie, frénétiquement, d'être candidat à la présidence de la République. Écoutez.
Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. C'est donc très tôt que j'ai fait part de ma volonté de préparer la présidentielle.
Est-ce que vous pourriez être candidate ?
C'est une probabilité.
J'y pense, mais y penser ne suffit pas. Si dans la région des Hauts-de-France, 6 millions de personnes ne souhaitent pas que je continue dans ces cas-là, je n'ai aucun crédit pour être candidat à l'élection présidentielle.
Je serai candidat. Il faut offrir le choix. Et moi, je veux qu'en 2022, les Français aient le choix. Après, ils voteront.
Oui, je suis prêt, mais je serai candidat définitivement si et seulement si j'ai recueilli 150 000 signatures de parrainage.
Ce que j'ai toujours dit, c'est que, en tous les cas, je prendrai ma part.
Pour l'instant, il y a la primaire.
Vous serez candidat.
Je le dis que je me prépare.
À partir du moment où il n'y a pas de candidat naturel, il faut trouver
une
méthode.
Il n'en est pas un candidat naturel, Xavier Bertrand ?
Lui et d'autres, et Valérie Pécresse, et peut-être Laurent Wauquiez, et moi-même, et peut-être d'autres.
Et la liste n'est pas exhaustive. Il y a les gilets jaunes, tout le machin. Ce formidable montage fait par Capucine qui prépare l'émission. Alors, si vous n'avez pas reconnu, c'était Marine Le Pen, 17 janvier, Ségolène Royal, 6 juillet, Xavier Bertrand, 19 septembre, Nicolas Dupont-Aignan, 26 septembre, Jean-Luc Mélenchon, 8 novembre, Anne Hidalgo, 21 novembre, Yannick Jadot, 13 décembre, Bruno Retailleau, 15 décembre. Et tout ça de l'année 2020. Et l'élection est en 2022. D'abord, qu'est-ce que vous dites de cette pléthore ?
Auquel ne fait que commencer. C'est-à-dire, je pense que la situation politique appelle à une pléthore de candidats, en tout cas de candidats à la candidature, on pourrait dire. Parce qu'ensuite, le système politique fera son tri et le suffrage universel à deux tours oblige à un moment donné les forces politiques à s'organiser différemment. Mais il y a un élément qui pèse. 80% des Français dans les sondages expriment leur envie de ne pas avoir un match Macron-Le Pen au second tour. Quand la demande est forte, elle finit toujours par susciter une offre.
Donc ils vont y arriver.
J'en sais rien.
Ah, comment ça, j'en sais rien?
Non, arrêtez, j'en sais rien.
Quand la demande est forte,
je sais rien parce que
et je vous dis, bah donc ils vont y arriver, et puis après, machine arrière.
Non,
parce que j'en sais. Comme un MRP à la retraite.
Ben non, parce que j'en sais vraiment rien. Ce que je sais, c'est que cette demande forte, elle suscite une offre qui va être pléthorique et qu'on va voir fleurir, et à gauche, et à droite, on pourrait même dire, et ailleurs, des pléthores de candidatures, parce qu'on peut avoir le général de Villiers, on peut avoir un acteur, un humoriste, on peut avoir plein de choses, parce que d'un certain point de vue, Emmanuel Macron a fait lui-même la démonstration que les partis n'étaient plus aussi indispensables pour être candidat à l'élection présidentielle et que dans notre système, dans notre démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, d'autres pouvaient réussir en étant différents.
Oui, 82% des Français ne voulaient pas que François Hollande se représente, il ne s'est pas représenté.
Oui, ça finit par peser.
Alors, comment est-ce qu'ils vont faire? Ça va être les sondages, par exemple?
Alors, toutes les théories sont sur la table. Vous avez peut-être lu la note de la Fondation Jean Jaurès sur la primaire en escargot, c'est-à-dire au fond qui se rapproche du système américain. C'est-à-dire, au lieu de voter tous le même jour, comme on a l'habitude de le faire en France, on décante les candidats en le faisant semaine après semaine sur un processus qui est rapproché. Ce qui est certain, je ne sais pas moi comment ça va se terminer, ce qui est certain, c'est qu'on va démarrer avec plein de candidats et qu'on va au fur et à mesure en avoir moins, mais qu'on aura une offre qui ne sera pas une offre complètement classique au moment de la présidentielle, parce que on est en réalité dans une configuration qui fait que l'accès au second tour se situe plutôt vers 18-20% et donc paraît accessible à plein de candidats potentiels.
Bon, allez, soyons un peu plus audacieux. Mélenchon sera candidat, oui ou non?
Oui, Mélenchon sera candidat, mais je parie qu'il fera un mauvais score.
Marine Le Pen sera candidate, oui ou non?
Oui, elle sera candidate, mais peut-être plutôt vers 20% que vers 27%.
Anne Hidalgo sera la candidate?
Possiblement, en tout cas, elle en a envie.
Et elle a des chances d'y être?
Oui, oui, bien sûr.
Il y a les écolos la soutenant ou les écolos ayant leur candidat?
Non, mais s'ils sont tous candidats, aucun d'entre eux ne sera au second tour. Et donc faisons le pari qu'à un moment donné, il y aura un tri qui s'opérera.
Et à droite, ce sera Xavier Bertrand
Ou quelqu'un d'autre, parce qu'il faut être à la fois le candidat des Républicains et élargir. Et donc c'est évidemment compliqué.
D'autres pourraient l'être?
Non, mais l'équation est compliquée pour
qui
tous.
Qui d'autre pourrait l'être?
Mais il y en a plein qui pourraient l'être.
On sait bien. Bah, c'est une façon de parler.
Mais manquera le plus populaire, qui est Édouard Philippe.
Ce que j'allais dire, qu'Édouard Philippe aurait pu l'être, que François Baroin.
Vous imaginez une seule seconde qu'Édouard Philippe soit candidat, Macron étant candidat?
Non, contre Macron, pas une seconde.
Bon, alors donc si c'est pas Xavier Bertrand et si Macron est candidat, qui sera le candidat à la droite?
Ils ont plein de candidats possibles.
Ils en ont plein possibles, mais il y en a un qui vous viendrait à l'esprit.
Accepter l'idée que justement parce que.
Il ne veut pas répondre.
Non, mais il y a toujours des surprises formidables.
Exactement. Accepter l'idée que parce qu'on est encore à 16 mois, il peut se passer énormément de choses.
Ça, c'est vrai que la politique, c'est le metteur en scène le plus incroyable, c'est qu'il se passe toujours des choses qu'on n'attend pas.
D'accord. Et donc.
Peut-être même que le président sortant a dit que peut-être qu'il ne serait pas candidat.
Oui, alors ça, ce coup-là, je le connais par cœur. Alors là, le nombre de fois où on me l'a fait.
Ah oui, ça.
Et moi, je me souviens encore.
François Mitterrand, incroyable.
Les gens, pendant le deuxième semestre 1987, qui croyaient Mitterrand quand on disait qu'il ne pourrait pas être, qu'il ne serait pas candidat, sauf si. Et je me disais, c'est tellement l'inverse.
Moi, je n'y crois pas une seconde non plus. Je pense que Emmanuel Macron est habité par une formidable volonté, un talent indéniable, et qu'en plus, son niveau dans l'opinion lui permet, ce qui n'était pas le cas de François Hollande, de prétendre encore pouvoir gagner
être
l'élection
le premier,
présidentielle.
Ils ont pris un vrai risque, un risque considérable. Emmanuel Macron sera candidat en 2022.
Voilà.
Alors, ceux qui voulaient en apprendre plus sur ce point précis pendant cette émission, en resteront sur leur faim, sauf qu'il y a la règle de la surprise permanente. Alors, pour terminer, une belle chanson que nous a trouvée Jean-Luc Arblade d'Alain Souchon, Un terrain en pente, une chanson de 2019. Comme dit Jean-Luc, Souchon, c'est pas seulement un grand parolier, c'est aussi un vrai sociologue. On l'écoute. On attend la nuit, on voit tout de là-haut, Un terrain en pente, la belle chanson d'Alain Souchon de 2019, choisie par notre réalisateur Jean-Luc Arblade, émission préparée par Capucine Patouillet, que vous pouvez faire écouter sur Europe1.fr en podcast. Merci à notre invité Stéphane Fuchs, vice-président d'Havas. Merci bien entendu à vous, Catherine. Et samedi prochain, on se retrouve en direct pour Mediapolis. En attendant, Vous avez rendez-vous avec l'ami Mariotte que je salue. Bonne année, Laurent.
Bonne année. Bonjour, Laurent.
Bonjour, Catherine. Et bonjour, Olivier. Et de la part de toute la bande, bonne année et bonne santé, bien entendu. C'est historique, hein, les restaurants sont à l'arrêt depuis mi-octobre. Eh bien, on va remonter le cours de l'histoire de nos restaurants depuis le 18e siècle jusqu'à nos jours. Et puis, cette circonstance, nous partagerons une belle galette avec le chef pâtissier Christophe Felder. À tout de suite.
À tout de suite, Laurent.